Belkacem.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Les étudiants, les lycéens et les jeunes socialistes ont décidé de manifester tous les jeudis contre la loi El Khomri. C'est irresponsable ?
Écoutez, les jeunes ont décidé de faire entendre leur voix. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de l'écouter, cette voix. C'est ce que d'ailleurs le Premier ministre
même
a fait la semaine dernière.
Même quand le gouvernement a pris les décisions qu'il a annoncées ?
Et bien précisément, c'est parce qu'il a écouté cette jeunesse, comme les partenaires sociaux, que le gouvernement a décidé de rééquilibrer profondément le texte qu'il a présenté
lundi. Il continue à manifester. Il ne vous écoute pas.
Mais parce que le dialogue social, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de dire aux jeunes, circuler, il n'y a plus rien à voir parce qu'on a présenté notre texte final. D'ailleurs, de fait, le dialogue va continuer autour de ce texte. Il va continuer au Parlement, avec sans doute des amendements, avec une discussion.
Encore d'autres reculs ?
Avec un dialogue, avec une discussion qui est démocratique, qui est nécessaire sur chaque texte.
Oui, mais c'est des reculs
c'est très
à chaque
bien
fois.
Comme cela. Mais non, mais Olivier Mazerolle, il ne s'agit pas de recul ou d'avancée. Vous savez, le dialogue social, ce n'est pas une guerre de tranchées entre ennemis où les uns avancent et les autres reculent. C'est la recherche d'un équilibre au service de l'intérêt général. Et en l'occurrence, le gouvernement, dans les 15 jours qu'il a pris supplémentaires pour travailler sur ce texte avec les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas rangé derrière les uns ou derrière les autres.
Manifestement, les jeunes ont la même conception de l'intérêt général que le gouvernement.
Il ne s'est pas rangé derrière les uns ou derrière les autres. Il a fait en sorte de faire se rapprocher les points de vue, converger les points de vue pour que ce texte fasse le maximum consensus. C'est ainsi
Alors,
que l'on gouverne.
François Hollande avait fait de la jeunesse sa priorité. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il n'y a pas de confiance entre lui, le gouvernement d'un côté, et les jeunes de l'autre ?
Alors, moi, je trouve que finalement, ce qui se passe en ce moment a au moins une vertu, en effet, c'est que nous parlons de la jeunesse. Et que c'est l'occasion pour le gouvernement de donner à voir ce que, depuis le début de son quinquennat, il fait en matière de jeunesse. Parce que l'engagement de François Hollande, que la jeunesse puisse vivre mieux en 2017 qu'en 2012, nous avons tout fait pour le respecter. Écoutez, c'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vous parle aujourd'hui. Parce que, vous savez, il y a un certain nombre de politiques qui sont du temps long, il faut l'admettre, mais par exemple, si on parle de l'entrée sur le marché du travail de ces jeunes, quel meilleur service y a-t-il à leur rendre que celui de bien les qualifier ? Or, en remettant l'éducation nationale comme premier budget de l'État, je vous rappelle que ce n'est pas le choix qu'avaient fait les précédents gouvernements, en créant des postes, certes, dans l'éducation nationale, mais surtout en changeant les structures, tout ce que nous avons fait depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, en augmentant les bourses des étudiants, eh bien, nous leur donnons la possibilité d'être bien armés sur le monde du travail. Mais ensuite, pardon, mais ça n'est pas tout. Au-delà de l'éducation, la garantie jeune qui a été plébiscitée au point, bien sûr que si. Le Premier ministre d'ailleurs l'a rappelé hier, ce sera 400 millions d'euros pour 100 000 jeunes. La garantie jeune qui est plébiscitée, eh bien, c'est un véritable service que nous rendons, notamment aux jeunes peu qualifiés, dont pas grand monde s'était occupé jusqu'à présent.
S'ils vont finir par vous écouter. Parmi les manifestants, il y aura également des professeurs, la FSU, syndicat d'enseignants, qui va continuer à manifester contre la loi El Khomri, mais aussi contre la faiblesse de l'augmentation annoncée du point d'indice sur RTL, on révèle ce matin qu'il sera au maximum de 1%. Ce ne sera pas plus ?
Écoutez, le Premier ministre fera ses annonces demain. Donc, soyez patients. Encore une journée à attendre sur ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est, là encore, Olivier Mazerolle, il faut toujours regarder dans le rétroviseur pour comprendre d'où l'on vient. Le point d'indice est gelé depuis 2010. La décision en avait été prise sous le précédent gouvernement. Je comprends que les fonctionnaires aient, à cet égard, des attentes fortes et des revendications. Je pense notamment aux fonctionnaires qui sont dans mon ministère, les enseignants.
Plus de 1%.
Et qui ont des revendications salariales qui sont tout à fait légitimes. Et je pense notamment aux professeurs du premier degré, mais aussi à certains égards, ceux qui s'engagent beaucoup, de manière générale, dans ce métier.
Alors un petit coup de pouce supplémentaire pour eux ?
Le Premier ministre fera ses annonces demain. Il est clair pour tout le monde que le point d'indice sera dégelé. C'est une bonne nouvelle. De quel montant sera-t-il ? Nous verrons.
Il y a presque un an, l'éducation nationale a été secouée par une affaire de pédophilie. Le directeur de l'école de Villefontaine dans l'Isère était poursuivi pour viol sur mineur. Est-ce qu'il y a beaucoup de radiation pour ce motif dans l'éducation nationale ?
Oui, c'est vrai que nous entrons dans les un an de l'affaire de Villefontaine. Oui. Il y en a eu des radiations, puisque nous avons sur ce sujet une politique très ferme. Il y en a eu sur l'année 2015, 27.
27 sur ce sujet. Des hommes, des femmes ou uniquement des hommes ?
essentiellement des hommes, mais cela peut concerner aussi des femmes, peu importe, c'est tout aussi grave à chaque fois.
Premier et second degré ?
Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'il y a des radiations ? Parce que nous estimons, nous, en tout cas j'estime, moi, qu'un professeur ou qu'un adulte, un agent de l'administration au contact d'enfants, dès lors qu'il a été condamné pour des faits aussi graves que la pédophilie ou la pédopornographie, ne peut plus exercer au contact des enfants. Et au fond, puisqu'on parle de Villefontaine et de ce qui s'est passé il y a un an, il faut que nous résolvions tous les dysfonctionnements que nous
Alors
avons vus à ce
moment-là. Alors justement, vous avez
prévu
une loi qui obligerait la justice à informer votre ministère, mais elle n'est pas encore votée. Un an après, c'est
elle
long.
Elle est en cours d'adoption. Ça peut paraître long, un an. Vous savez comment les choses se sont passées. Nous l'avions adopté dans un premier temps avant l'été dernier, puis le Conseil constitutionnel l'avait retoqué pour des raisons de forme. Nous la réadoptons dans de bonnes conditions. Elle va être adoptée d'ici peu. Mais c'est très important, cette loi. Et nous ne l'avons d'ailleurs pas attendue. Nous n'avons pas attendu son adoption formelle pour changer nos procédures en interne. Avec la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, nous avons fait en sorte que dès cette rentrée scolaire, septembre qui vient de s'écouler, eh bien, nous ayons des référents éducation nationale au sein des tribunaux et des référents justice au sein de nos académies de l'éducation nationale pour que la communication passe mieux et que ne nous échappe plus ce type de situation où un individu qui travaille avec des enfants
avait été condamné. On voit que les institutions comme la vôtre ainsi que l'Église d'ailleurs qui est en cause aujourd'hui ont du mal à traiter ce genre de sujet puisque vous avez eu un professeur qui avait été condamné pour ses faits en Grande-Bretagne et votre ministère avait été informé puis il a quand même eu l'autorisation d'enseigner en France et il est poursuivi maintenant. Il faudrait que l'Église, comme l'éducation nationale, applique le principe de précaution.
Alors d'abord, juste sur ce point, en plus de l'adoption de la loi en cours et puis des référents justice et éducation que je viens d'évoquer, il y a une grande nouveauté que nous avons introduite, sur laquelle il faut insister. Pour la première fois, j'ai décidé que nous allions passer en revue au peigne fin l'ensemble des casiers judiciaires de toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et nous commençons à le faire, ça y est, nous avons expérimenté la chose dans une académie et cela fonctionne bien et donc nous allons faire cela, ça va durer à peu près un an parce que nous sommes en capacité de passer en revue 3000 dossiers par jour, mais tous les dossiers vont être passés en revue pour vérifier que dans le passé, il n'y ait pas eu des cas de condamnation qui nous auraient échappé et que l'on puisse mettre un terme aux situations problématiques. Mais pour vous répondre qu'il s'agisse de l'Église ou de l'école, moi j'ai un principe simple. La pédophilie est une affaire extrêmement grave qui détruit des vies. Et donc le principe, c'est pas de silence, c'est la transparence totale. Tous ceux qui pensent que l'on peut régler les choses en interne ou en faisant silence se trompent gravement. Et donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai adopté toutes ces procédures et je serai ferme, y compris pour sanctionner quand cela s'impose. Et j'en attends autant de toute institution.
Merci Najat Vallaud-Belkacem.
Merci.
Najat Vallaud-Belkacem qui vient d'annoncer que 27 radiations ont bien eu lieu dans les personnels de l'éducation nationale concernant la pédophilie et la pédopornographie et que tous les personnels dorénavant de l'éducation nationale feront l'objet d'une vérification de leur casier judiciaire. Merci beaucoup à tous les deux. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.